Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Marius. Ah non, dis Marius qui bouge.
Ah, Marius est frisé. Ah, la caméra.
Non, c'est normal, il bouge.
Non, il ne bouge plus.
Tu le fais trop bien.
Marius qui simule le plantage.
Ah, par contre, t'es mute.
Bah, non, il fait semblant de ne pas parler.
Ah oui, il est fort, hein. Il est très fort.
Mais quel petit blagueur.
Non, il est en mute, vraiment. T'es en mute, vraiment, Marius?
Ah, putain, mais je suis fatigué. J'étais en train de chercher une réponse à ta question débile que t'as changée il y a 24 heures.
Ouais.
Et pour pas dire ce que je m'apprête à dire, parce que c'est un peu m'enfoncer une porte ouverte, mais tu vois, voilà.
Genre, t'étais déjà en train de réfléchir à là ce que tu vas dire sur la question de la semaine de la bande-annonce de Silence
J'étais pas en train de réfléchir, j'étais en train de chercher une bouée de sauvetage.
Une bouée de sauvetage. Eh ben, écoute, je te donnerai la parole pas en premier. Parce que donc effectivement la question de la semaine c'est une question à spoiler potentiel hein. On va pas vous cacher, donc je vous demanderai, chère chroniqueuse, de donner le nom du jeu
sans raconter
avant d'expliquer la réponse, comme ça les gens qui ne veulent pas connaître la fin, parce que en fait la question c'est quelle est la meilleure fin selon vous d'un jeu vidéo. Et donc, évidemment, un potentiel spoiler. On va dire le nom du jeu. Et puis, si vous ne connaissez pas la fin et vous n'avez pas envie de la savoir, vous pouvez passer l'extrait. Donc, je commence avec toi, Julie. Quelle est la meilleure fin de jeu vidéo?
Alors, ambiance, parce que je vais parler de Silent Hill 2. Donc, si vous ne l'avez pas fait, effectivement, bouchez-vous les oreilles. En plus, il y a le remake qui vient, etc. C'est l'une des fins de Silent Hill 2. C'est une fin qui s'appelle In Water, et qui est... parce qu'après, je pourrais vraiment parler de la fin au sens large de Silent Hill, au-delà des fins multiples qu'on peut débloquer, c'est celle où, en fait, on comprend que les créatures qu'on combat depuis tout ce temps sont, en fait, une manifestation de la culpabilité du personnage principal, donc de James. Et alors, In Water, c'est la fin peut-être la plus triste, la plus tragique, mais aussi la plus logique du jeu, c'est celle où James, en fait, décide de se suicider. Et qui m'avait complètement bouleversé à l'époque, et bon, j'y repense encore assez souvent. Enfin, dès qu'il y a des news sur Silent Hill, en fait, je repense à l'intensité de cette fin, et que je trouve, bah oui, effectivement, ultra triste, mais tellement, tellement logique par rapport à toute l'expérience de jeu qu'on a pu avoir auparavant, et qui, en fait, a fait entrer, je trouve, Silent Hill 2 dans le panthéon des grands jeux d'horreur. Même si, effectivement, c'est un jeu auquel on pourrait jouer en passant complètement à côté de tout son côté métaphorique et symbolique, mais qui va vraiment lui apporter tout son sel, quoi. C'est une fin absolument magnifique, je trouve. Et surtout, il y a ce côté que je trouve vraiment intéressant dans les fins de Silent Hill, c'est qu'on sait pas exactement quelles sont les actions qui ont mené à cette fin. Là, en l'occurrence, c'est une fin qu'on va avoir si on s'est comporté de manière assez inconsidérée pendant l'aventure, c'est-à-dire qu'on s'est pas soigné tout le temps, qu'on a montré un profond attachement envers notre femme décédée au cours du jeu, alors qu'on avait peut-être l'occasion de montrer qu'on était prêt à tourner la page. Et ça, je trouvais ça vraiment intéressant de pas avoir une fin où on se dit « Ok, c'est parce que j'ai fait des choix ou tel choix à tel moment. » C'est toute l'expérience de jeu, en fait, qui arrive à une somme que je trouve sublime, moi, vraiment.
Ok, cool. Patrick?
Il y en a plein. Évidemment, grand classique, Deadly Premonition, évidemment. Deadly Premonition, c'est déchirant, la fin. J'ai pas envie d'en dire plus que ça. C'est assez vertigineux, en fait. L'enquête est terminée, mais tous les personnages n'ont pas survécu, et puis on a des visions de ce qui se passe après. Ça crée beaucoup de choses en tant que joueur. Enfin, moi, je sais que ça m'a posé pas mal de questions. Alors, c'est un peu un classique, hein, un open world qui te laisse un peu les clés une fois qu'il a terminé le new game ou que c'est quelque chose comme ça. Mais là, c'est teinté d'une telle amertume. Moi, ça a eu un impact fort, c'est-à-dire que tu peux sauvegarder, tu restes dans cette ville alors que l'enquête est terminée, tu peux continuer un petit peu à vaquer aux missions secondaires, etc. Mais en même temps, il y a une absence totale, il y a plus cette enquête parce qu'elle est résolue, parce que encore une fois, des personnages très forts ont disparu et tu es dans ton regret en tant que joueur de ta partie. Tu sais que tu y as laissé une partie de toi-même aussi, et tu y reviens tout le temps. En fait, tu hantes un peu ces lieux qui sont dévitalisés finalement de la dynamique de l'intrigue. Et voilà, pour moi, c'est vraiment un de ces jeux où tu, et c'est ça aussi une fin de jeu, c'est une fin qui te change, mais comme un bon film te change, oui, quand tu sors de la salle au cinéma, te change de pas grand chose, mais tu n'es plus exactement le même après le film. C'est pas grand chose, mais ça t'a changé. Et ce jeu-là l'a fait. Après, je regardais, hein, j'ai un peu potassé en catastrophe la question, et je notais les années 80 étaient une effusion de fin quand même cultissime. On savait rire dans les années 80. J'avais noté évidemment la fin mythique de Metroid, hein, la révélation Samus, qui est Samus, c'est une femme, etc. Moi, j'ai encore le souvenir de Double Dragon en arcade où on pouvait jouer avec un pote, on jouait à deux, on serrait les coudes pour finir le jeu à deux, puis tu devais sauver Marianne qui avait été enlevée, et puis le jeu te disait à la fin, bon, bah, il faut qu'il en reste qu'un, quoi, battez-vous. Et donc finalement tous ces coups que t'avais pris pendant la partie en coop, bah tu devais démonter ton pote. Ghosts and Goblins, la fin du jeu qui te dit, alors t'en as bavé comme c'est pas possible. La fin du jeu te dit non, mais en fait c'était qu'un entraînement. Maintenant tu t'attaques au vrai niveau de difficulté, donc tu refais le jeu en plus dur. Et puis Karateka. Moi j'ai toujours eu un attachement au fameux Karateka de Jordan Mechner où tu arrivais où tu devais tout le principe du jeu était de sauver la princesse Mariko. Et donc, tu arrivais devant elle à la fin, comme, tu sais, c'est un peu l'icône du trophée féminin que tu devais récupérer. C'est terrible, mais c'était vraiment ça dans le jeu. À part que Karateka se moquait de ça, parce que si tu arrivais devant elle en mode combat, c'est-à-dire que t'avais vraiment le, tu sais, la Karateka, c'est un jeu de combat à progression, avec des cinématiques, etc. C'était très, très visionnaire pour l'époque. Si tu arrivais en mode combat, si tu baissais pas ta garde, si tu arrivais en mode combat, elle te foutait une tannée et elle t'était assommée direct, en fait. Donc, il fallait baisser sa garde et arriver de façon, en marchant de façon paisible devant elle pour gagner. Et ça m'a, enfin, voilà, c'est assez marquant. En tout cas, on savait rire dans les années 80 et comment dire, proposer des chutes de jeux vidéo qui pouvaient être douces amères, on va dire.
Ouais. Marius, tu as eu le temps de réfléchir.
Je m'apprêtais à dire The Last of Us parce que putain.
Parce que oui, quand même.
Oui. Ah bah oui, ouais, sacré fin dans le jeu. Ouais.
Bah vas-y. Hein,
personne t'en voudra, Marius.
Il faut, hein, mais tu peux y aller. Hein.
Ah, j'ai eu le temps. Non, mais il y en a une autre qui est fantastique parce qu'elle elle vient conclure deux jeux. C'est la fin de Mass Effect 2. C'est ce ouais, commando final complètement fou.
Ah oui, c'est
fou,
vrai. Ouais. C'est vrai.
On a joué pendant je ne sais pas combien d'heures. Coup, on a investi. Tous les efforts de Mass Effect 2, c'est de monter un commando et ce dernier moment ultra tendu où tu peux perdre ces membres auxquels tu t'es attaché, c'est terrible et je
m'en mets
toujours
dents,
pas de la seule disparition qu'il y a eu dans mon commando, mais c'était très très beau quoi. Enfin, c'est un moment à la fois hyper tendu, qu'on réussisse ou non en plus.
Moi j'avais perdu le médecin, j'étais triste. Pareil. Ah ouais. Oh là là.
C'était crève-cœur, enfin, c'est des moments qui sont horribles.
Ouais, c'est vrai. Moi, pareil, hein, dans les contenders, il y a la fin du premier Red Dead Redemption qui est assez exceptionnel quand même. Je mettrais quand même, parce que ça m'a tellement motivé, et puis je l'ai vu deux fois quand même, c'est le ce qu'on appelle le true ending de Hades, qui arrive quand même après un certain nombre de runs quand même, parce qu'il y a une première fin, et puis il y a le true ending qui arrive encore plus loin. Je parle même pas de la toute première fin qu'on croit avoir quand on bat pour la première fois Hades à la fin des runs. C'est même pas le début de la fin, ça. C'est... Donc il y a ça, il y a la première fin, il y a le true ending à la fin, et donc... je mettrais, mais quand même moi je, parce que ça m'a marqué, c'était en 2012, c'est la fin de la première saison de The Walking Dead.
Ah mais oui.
Et franchement moi, elle m'a, enfin, déjà toute la saison m'avait scotché, j'ai des moments de jeu dont je me souviens encore avec Lee, donc ce personnage, le héros finalement de la saison 1 de The Walking Dead. Clémentine était un peu co-héroïne, un peu personnage secondaire principal, mais c'est le héros, celui qu'on jouait vraiment, c'était Lee. Et voilà, et cette fin de The Walking Dead saison 1 avec la mort de ce personnage donc qu'on a incarné pendant tout le jeu, et c'est ce truc poignant et ce choix aussi. Ce choix qui est le nôtre à la fin de cette saison et qui donne les clés à Clémentine et
c'est poignant, hein.
Et franchement, moi il y avait tellement de choses, il y avait ce que je voyais comme étant une sorte de renouveau et ce qu'il a été vraiment de nouvel âge d'or du jeu narratif, qui commençait là, parce que bon, il y a eu, hein, il y a eu des jeux narratifs, et je suis pas le meilleur spécialiste autour de cette table pour
en
parler.
Il y a eu Heavy Rain avant, hein, moi que j'aime beaucoup, hein, j'aimais beaucoup Heavy Rain. Hein, je sais que c'est plus à discussion, mais moi, Heavy Rain était.
Pour le coup, The Walking Dead saison 1 a redynamisé le truc, quoi. Et il y en a eu d'autres après. Qui se sont inspirés, et puis les What Remains of Edith Finch, et puis tous les autres. Fin...
La fin de Gnome n'était pas dégueu. Hein.
Oui, elle était très bien. Oui, c'est vrai. Mais voilà. Et moi, j'ai vraiment. Pour moi, il y avait quelque chose d'important qui se jouait dans une fin très réussie de cette saison 1 de The Walking Dead. J'étais vraiment touché à un niveau où le jeu vidéo m'a pas beaucoup remué comme ça, ni avant ni après. Voilà, bah écoutez, c'était la bande-annonce de l'épisode 16 de la saison 16, tiens. Ah, c'est beau. L'épisode 16 de la saison 16 de Silence en Joue. On se retrouve demain sur Libération.fr et sur les internets. Ciao.
Ciao.
Salut.
Oh, on n'a pas cité Stanley Parable, qui est un jeu que sur les fins.
Ah c'est oui, vrai. C'est vrai. Ah non, mais il y avait tellement de trucs à dire sur les fins.
Mais c'est la meilleure fin, donc là, il aurait fallu en citer 16, ça aurait été compliqué, c'est vrai.